Donc, bonjour et rebonjour à tous. Cette fois, c'est officiel. Donc, nous allons continuer notre étude de l'Épître aux Galates. Donc, en abordant maintenant le chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Et ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, ce sont les 15 premiers versets qui, à mon sens, forment une unité. Et puis après, la prochaine fois, évidemment, on continuera. Donc, toujours pareil, la traduction va s'écarter un peu de ce dont vous avez l'habitude, puisqu'elle est traduite directement à partir de l'araméen, en privilégiant l'araméen plutôt que le français. Donc, parfois, le français va vous paraître un peu bizarre, mais c'est normal. Donc, si vous êtes prêts, Galates 5, versets 1 à 15. Tenez donc ferme dans cette liberté par laquelle le Messie nous a libérés, et ne soyez pas encore restreints par le joug de la servitude ou de l'esclavage. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, le Messie ne vous profitera en rien. Or, j'atteste encore que tout homme qui est circoncis est condamné ou obligé à mettre en œuvre toute la loi. Vous avez fait sécession d'avec le Messie, vous qui êtes justifiés par la loi, ou qui vous croyez justifiés par la loi. Et vous êtes tombés, c'est le verbe qui est employé, donc dans vos traductions déchus, vous êtes tombés de la grâce. Car nous demeurons dans l'esprit qui procède de la foi, c'est-à-dire la confiance et la fidélité. Je précise à chaque fois le mot foi, ce que ça veut dire. Ce n'est pas un credo, c'est avoir confiance en Jésus et lui être fidèle. Un état de cœur et les actes. Nous demeurons dans l'esprit qui est de la foi en vue de l'espérance de la justice. Car dans le Messie Jésus, ni la circoncision ni l'incirconcision sont quelque chose. Mais la foi, la confiance et la fidélité, une foi qui est mûrie, rendue mature par l'amour. Vous courriez de façon excellente. Qui vous a perturbé en sorte que vous ne soyez plus obéissant à la vérité? Votre conviction, ici donc une conviction qui a été détournée, n'est pas issue de celui qui vous a appelé. Donc si ce n'est pas le père d'en haut, c'est le père d'en bas. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et là, Paul cite Jésus lui-même. Moi, j'ai cette assurance à votre sujet, par notre maître, que vous ne penserez pas autre chose. Et celui qui vous trouble, lui endurera le jugement, qui que ce soit. Or moi, frère, si j'avais prêché encore la circoncision, pourquoi ai-je été persécuté? Est-ce que le scandale de la croix aurait cessé? Plus au ciel que non. Alors là, l'araméen est un peu lourd. Pour ce qui est de retrancher, que puissent être retranchés ceux qui vous troublent. C'est cette forme sémitique qui consiste à insister sur le verbe. Dieu avait dit à Adam, « Mourir, tu mourras s'il mangeait du fruit. » C'est cette forme-là. Donc, pour ce qui est d'être retranché, puissent être retranchés ceux qui vous troublent. Donc, Paul est très lourd et donc très sérieux. Or, vous, c'est pour la liberté que vous avez été appelés, mes frères. Seulement que votre liberté ne soit pas un prétexte pour la chair, mais par amour, soyez comme asservis et soumis les uns aux autres. C'est intéressant ce terme. Car toute la loi, par une seule parole, est remplie. Ça, c'est une forme araméenne. Par ceci, tu aimeras ardemment ton prochain comme ton âme, comme toi-même. Or, si vous vous mordez l'un l'autre, et si vous vous mangez, j'expliquerai ce que ça veut dire ensuite, l'un l'autre, veillez de peur que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Et donc là, il y a encore un araméisme que j'explique de suite. En araméen, manger, ou plutôt accuser quelqu'un, littéralement en araméen, ça se dit manger, c'est chair. C'est comme un animal de proie qui déchire la chair de l'animal qu'il a attrapé. Pensez à une lionesse avec une antilope. Ben, cette action de mordre la chair, d'arracher la chair, c'est comme ça qu'on dit en araméen accuser. C'est manger la chair de quelqu'un. Donc, vous voyez, c'est très violent comme expression. Et là, c'est ce qu'il dit. Si vous vous mordez l'un l'autre, si vous vous mangez, sous-entendu, si vous vous accusez l'un l'autre, vous serez consumés l'un par l'autre. Et là, c'est intéressant l'enchaînement. Mordre, croquer, manger, consumer. Vous voyez la progression. On mord, on mange, on consomme. Donc l'araméen a cet avantage d'être un langage très concret. Donc les images souvent sont fortes. Alors maintenant, quant au... Voilà, quelques pensées par rapport à ce texte. Paul commence face aux Galates. Alors je redonne un peu le contexte. Les Galates étaient sous l'influence de judaïsants, dont le message était le suivant. Si vraiment vous voulez faire partie du peuple de Dieu, alors il faut accomplir le signe que Dieu lui-même avait donné, signe d'appartenance au peuple de Dieu, c'est-à-dire la circoncision. Et ça, vous lisez ça dans Genèse au chapitre 17, quand Dieu a fait alliance avec Abraham et il lui a dit, ben voilà, circoncision pour toi, ta postérité et tous les serviteurs de ta maison en signe d'alliance. Alors c'est intéressant parce que pourquoi la circoncision? Pourquoi ne pas avoir pris comme signe d'alliance un anneau? Dans la loi, il y a ça. Un serviteur qui trouve que son maître est bon et décide de le servir à vie, le maître va lui mettre un anneau à l'oreille qui va être le signe « Je m'attache à mon maître et je veux le servir. » Vous voyez? Donc voilà, là il y a juste un petit trou dans l'oreille, c'était pas grave. Mais là, c'est la circoncision, donc c'est quand même l'ablation d'une partie de la chair. À quoi peut renvoyer cette image de circoncision? Pourquoi enlever un bout de chair? Pourquoi une amputation? Parce que ça revient à ça. On ampute un bout de chair. C'est ça. Pourquoi? Ça symbolise quoi? La réponse, évidemment, est dans la Nouvelle Alliance. Hein, dans l'Épître aux Colossiens. Au chapitre 2, je vous aide. Ça veut dire quoi, cette circoncision? Ça renvoie à quelle réalité? Puisqu'on sait que dans l'Ancienne Alliance, les réalités visibles terrestres renvoyaient en fait, de manière pédagogique, à des réalités spirituelles et éternelles. Alors pourquoi l'ablation d'une partie du corps? Pourquoi une amputation? C'est violent. Pourquoi?
La séparation.
Séparation d'avec quoi?
Avec l'Ancienne Alliance. Avec le monde. Séparation du monde.
Mmh. Séparation. Alors plus précis, alors on est dans là, mais on va zoomer encore plus.
Se séparer du péché.
On enlève un bout de chair. Exact. Et le mot chair dans la Bible a deux sens. La chair, la viande. La chair. Quand il est dit nous sommes des êtres de chair et de sang, là, il n'y a aucune notion de péché là-dedans. C'est juste notre nature biologique, corps et âme, chair et sang. Mais la chair a également ce deuxième sens d'une nature charnelle, c'est-à-dire une nature égocentrée. Si on voulait employer un mot moderne pour le mot péché, que les gens ne comprennent plus aujourd'hui, ça serait le mot égoïsme, égocentrisme. Ça serait le mot moderne pour parler de la nature de péché. Donc le mot hébreu ou araméen, chata, ça veut dire rater la cible, passer à côté, manquer le but pour lequel Dieu nous avait créé, c'est-à-dire la communion avec lui. Et si on rate le but de la communion avec lui, c'est parce que on vit pour nous-mêmes, on vit de manière égocentrée. Donc là, la circoncision de la chair au premier sens du terme, véritable l'ablation d'un bout de chair, renvoie à l'ablation du vieil homme, ce qui s'appelle le vieil homme, la nature de péché. Et c'est ce que dit Paul dans Colossiens 2 au verset 11, quand il parle de la circoncision de Christ, qui consiste en le dépouillement du vieil homme. Le vieil homme, c'est cette nature adamique, cette nature de péché, c'est notre égoïsme. Donc si Jésus se montre à nous, c'est pour que nous tournions vers lui et cessions d'être centrés sur nous. C'est ce mouvement-là. Donc la circoncision, c'est le dépouillement du vieil homme. Mais pour se dépouiller du vieil homme, faut-il encore le voir? Faut-il encore le percevoir? Je ne peux pas me débarrasser de quelque chose que je ne vois pas. Et c'est là qu'intervient la notion de repentance. Comme on le partageait hier à quelques-uns, la repentance, ce n'est pas je lève la main en disant je me reconnais pécheur, Jésus est mon sauveur, ça y est, c'est terminé, je suis chrétien. C'est pas la repentance, ça. Ça, c'est la manière dont on appelle les gens aujourd'hui pour les faire rentrer dans l'Église. Mais ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est le dépouillement, c'est ce qui amène au dépouillement du vieil homme. La repentance, c'est la lumière du Seigneur qui vient en nous pour nous montrer qui nous sommes, afin qu'il puisse lui-même montrer qui il est. Les deux vont ensemble. On ne peut pas voir Jésus si on ne se voit pas soi-même. Alors, je ne dis pas par là qu'il faut faire de l'introspection, surtout pas, mais c'est à la lumière de la parole de Dieu, c'est avec une vie de prière centrée sur Jésus que le Seigneur nous montre qui nous sommes afin de pouvoir se révéler comme il est. C'est les deux ou aucun des deux. Donc, il en est qui se frappe la coulpe tous les jours, mais ne voit jamais Jésus. Ça, on trouve ça en particulier dans les milieux légalistes et sectaires, où les gens sont tellement préoccupés avec leurs propres péchés qu'ils sont en fait enfermés en eux-mêmes. C'est une manière très religieuse de manifester l'égocentrisme. On centre les gens sur eux-mêmes, leur culpabilité, leur fardeau, etc. Ça, c'est une manière de faire. Mais il y a le pendant dialectique, si je puis dire, où on a un évangile tellement facile, ou comme dirait Bonhoeffer, une grâce qui ne vous coûte rien. Et du coup, voilà, c'est facile d'entrer dans l'église, c'est facile de devenir chrétien. Et ensuite, on trouve toutes sortes de problèmes dans les églises, dont on se demande comment c'est possible. Parce qu'il n'y a pas eu de repentance. Et la repentance, comme on le disait un petit peu hier, c'est une mise à nu de notre être devant le Seigneur. Et ça se fait dans la prière. Je lance un défi à l'Assemblée. Prenons le temps dans la prière de demander au Seigneur, « Seigneur, montre-moi une des idoles qui est cachée dans mon cœur. » Mais faites-le sérieusement. Vous allez voir comment le Seigneur va répondre. Par contre, quand il montre l'idole, c'est très douloureux. Ce n'est pas la vue de l'idole qui est douloureuse, c'est le fait de s'en séparer. Et c'est là qu'on voit que la circoncision du cœur n'est pas une mince affaire. C'est quelque chose qui est douloureux. Parce qu'on arrache des trésors qui sont bien blottis dans notre tente, exactement comme les téraphimes. Vous souvenez, les petites statuettes qui étaient cachées sous la tente de Jacob et la tente des Israélites. Et il fallait dénicher les idoles qui étaient cachées dans les tentes de chacun, les petits dieux de la maison, en quelque sorte les dieux domestiques. Donc ce n'est pas une mince affaire la repentance, c'est véritablement une mise à nu des idoles de notre cœur. Autrement dit, la lumière qui est mise dans notre temple intérieur, dans lequel il y a telle statue, telle statue, telle statue, je parle évidemment de manière imagée, telle idole, telle idole, telle idole. Et donc là, Paul dit, c'est pour la liberté que le Messie nous a libérés, justement, du culte rendu aux faux dieux, du culte rendu aux idoles de notre cœur. Parce que les idoles extérieures que célébraient les Grecs n'étaient que le reflet d'idoles intérieures. Et donc il dit, si le Seigneur nous a libérés pour nous affranchir du culte rendu aux idoles, donc je paraphrase ce qui est là, il dit, mais pourquoi est-ce que vous vous mettez à nouveau sous le joug de la servitude ? Autrement dit, vous allez remettre en place une idole. Et donc, on va voir laquelle. Quand il parle de liberté également, c'est un autre point qui est très important. Dans Jean 8, je pensais à ce verset-là, où Jésus dit, mais si vous êtes vraiment mes disciples, et il parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des gens qui faisaient profession de croire en Jésus, Jean 8, si vous êtes vraiment mes disciples, vous demeurerez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc je retiens deux choses de ce verset-là. D'abord, vous connaîtrez la vérité. Alors très souvent, on se dit, oui, je connaîtrai la vérité, j'aurai la bonne doctrine. En tant qu'occidental, on réduit la vérité à de la connaissance, à de la doctrine, à de la théologie. Mais le mot araméen qui est employé là, c'est le même mot qui est, c'est la même racine qui est employée dans le verbe affermir. Donc quand Jésus dit « je suis la vérité, le chemin, la vérité, la vie », quand il parle de vérité, il parle en fait de l'œuvre de l'Esprit qui affermit notre cœur en lui. C'est un travail dans le cœur qui nous affermit en Jésus. C'est ça la vérité. C'est cette vérité-là. Quand Paul dit, il prie afin que, non, je ne sais plus dans quel épître, je prie afin que vos cœurs soient affermis dans, c'est la même racine qui est là, qui veut dire affermir. Donc à chaque fois que je vois le mot, le mot araméen, shrara, donc qui renvoie à la racine char, qui veut dire affermir, je me dis, voilà, il est en train de parler en fait de l'œuvre de l'Esprit qui affermit le cœur en lui. Et qui fait de l'Éternel notre rocher. C'est ça l'image, le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est le deuxième point lié à Jean 8, la liberté est un processus. Donc là, je vais peut-être en déranger certains, pas forcément ici, mais qui vont écouter. Mais on a souvent ce message qui est envoyé dans les églises, voilà, t'as cru en Jésus, ça y est, tu es libre, tu es affranchi, tu es assis dans les lieux célestes, ton vieil homme est mort. Voilà, on fait des tas de proclamations, on fait du narratif dont on ne vit pas la réalité. On est dans la proclamation et pas dans l'expérience. Ah oui, mais l'expérience viendra. Oui, voilà, attends d'avoir l'expérience pour pouvoir ensuite en témoigner. Mais on est dans le narratif. Si je me dis, ma chair est crucifiée en Christ, pourquoi voulez-vous encore que j'entre dans un processus de repentance ? Puisque positionnellement, de manière abstraite, quelque part, ma chair est déjà crucifiée. Pourquoi entrer dans un processus de repentance ? Vous voyez, ça bloque d'emblée. On est dans ce narratif. Donc moi, ça me gêne profondément, cette manière de voir. Cherchons plutôt le Seigneur, entrons dans cette démarche, et ensuite rendons témoignage au fur et à mesure de l'œuvre qu'il fait en nous. Et là, on reste les pieds sur terre dans la réalité. Donc la liberté est un processus. Il nous affranchit au fur et à mesure que cette lumière se fait en nous. Ensuite, donc, Paul va prendre le contre-pied de cela. Si vous êtes circoncis, donc j'ai parlé de la circoncision tout à l'heure, le Messie ne vous sert plus à rien. Et encore plus grave ensuite, Paul va dire, vous êtes tombés de la grâce. Est-ce que vous vous rappelez dans quel... Alors je vais vous aider. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, où est employé également le verbe tomber. Je vous aide, la première de cette église, Éphèse, Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Jésus reproche à Éphèse?
Je ne sais tomber ton premier amour.
Voilà. Vous voyez? Ce premier amour qui va être à la racine de tout le reste, parce qu'on ne peut pas se repentir si on ne voit pas la bonté de Jésus. Hein. Donc c'est Jésus qui révèle d'abord le début du commencement de sa bonté, qui nous amène au début du commencement de notre repentance. Et après, les deux vont aller ensemble. Mais c'est Jésus qui commence en montrant sa bonté, et du coup, on se repent. Quand on chantait le dernier cantique, là, j'avais du mal à le chanter, tellement ça me prenait aux tripes. Là, on voit le Jésus qui s'offre, et ça prend aux tripes. Donc là, si vous voulez, vous vous faites circoncire, vous êtes tombé de la grâce. Et pourquoi tombé de la grâce? Parce qu'on remplace une réalité spirituelle, la circoncision du cœur, qui fait mal, qui est un processus douloureux de repentance, de prise de conscience de ce qu'est notre chair, et on le remplace par une opération chirurgicale, qui est peut-être douloureuse, mais entre guillemets, ça c'est facile. Les signes visibles, c'est facile. Manger du pain, c'est facile. Boire la coupe, c'est facile. Mais communier au corps et aux souffrances du Messie, et ça, c'est pas la même chose, parce que là, on entre dans le travail sur l'homme intérieur, sur la chair. C'est vraiment un autre processus. Donc, remplacer les réalités spirituelles et éternelles par des pratiques visibles, Paul dit, c'est tomber de la grâce. C'est choisir la voie facile. La voie de la religion, et non pas la voie de la relation avec le Messie, où les deux doivent devenir un. Et ça, ça coûte. C'est la grâce qui coûte, dont parle Bonhoeffer. Et c'est encore plus grave, dit Paul, parce que si vous vous faites circoncire, donc si vous voulez retourner à la première alliance, il va vous falloir observer toute la loi. C'est ce qu'il dit au verset 3. Mais ça veut dire quoi, observer toute la loi? Y a-t-il un seul homme, une seule femme qui ait pu satisfaire à toute la loi? Alors, il y en a eu un. Voilà. Mais en dehors de Jésus, non. Au contraire, que fait la loi? C'est ce que dit Paul dans Romains 7. La loi dit, tu ne convoiteras pas. Que fait ma chair? Elle convoite. Donc, Paul dit, non seulement vous tombez de la grâce en vous faisant circoncire, en prenant la voie facile, mais en plus, vous allez devoir obéir à toute la loi, et plus vous allez essayer, plus votre chair va se manifester. Parce que la nature même de notre chair, c'est l'opposition à la loi, la rébellion à la loi, la transgression de la loi. Parce que Paul nous dit que la loi, elle est pure, sainte et bonne, hein. Le problème, ce n'est pas la loi, mais il nous dit, mais c'est la chair. C'est bien pour ça que c'est la chair qu'il faut circoncire. Donc là, en fait, les Galates ont mis le doigt dans un engrenage qui va ne faire que poser des problèmes et loin d'obtenir la justice de Dieu en appartenant au peuple de Dieu, et je mets des guillemets à peuple de Dieu, puisqu'on a changé d'alliance, on n'est plus sous l'ancienne alliance. Eh bien, plus ils vont faire ça, et plus, en fait, ils vont connaître de problèmes, ils vont aller à l'encontre même de l'œuvre du Messie dans leur vie. C'est pour ça qu'il dit, ensuite, au verset 5, en contraste, nous, par rapport à vous qui voulez vous faire circoncire, nous, nous demeurons dans l'Esprit, dans l'œuvre de l'Esprit, dans l'affermissement de l'Esprit, dans la lumière de l'Esprit. On ne veut pas sortir de l'Esprit. Sinon, on retourne à la lettre, on retourne à la loi. Et voilà. Donc, Paul est en train de mettre ici en opposition la religion et la marche par l'Esprit. C'est pour ça que juste après, dans le passage suivant, qu'on verra la prochaine fois, il va lister les fruits de l'Esprit, les œuvres de la chair. Il va bien mettre en contraste pour bien faire comprendre aux Galates. Mais là, il le fait déjà. Nous, nous demeurons dans l'Esprit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la liberté dont il est question, la vérité dont il est question, c'est l'œuvre d'affermissement de notre cœur par l'Esprit. Donc, nous demeurons dans l'Esprit qui procède de la foi, confiance et fidélité en Jésus, en vue de l'espérance de la justice. Ça, c'est un point qui m'a frappé aussi, parce que là encore, dans le déclaratif, oui, je suis justifié par la foi, la justification, c'est une parole légale qui m'est tombée dessus sans aucun impact dans ma vie, c'est déclaratif, mais on oublie que la justice, la justification par la foi, doit se transformer en justice dans nos vies. C'est ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est la justice qui devient effective dans notre vie. C'est un processus, bien sûr, mais ça doit avoir lieu. Donc là aussi, on peut rester dans le déclaratif. Et quand on reste dans le déclaratif, on a cassé en nous le nerf de la recherche. Après, il ne faut pas s'étonner si les vies ne se transforment pas. Si on n'a pas vraiment envie de lire la Bible, ou si la vie de prière, ça ne nous motive pas. On casse le nerf de la recherche par ces proclamations déclaratives. Et Paul conclut cette première idée en disant que dans le Messie Jésus, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'amour est tout. Je paraphrase. Pourquoi ? Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. La loi se résume à « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas de mal à son prochain, donc l'amour est l'accomplissement de la loi. Et donc on voit que la nouvelle alliance ne vise qu'à une seule chose, connaître l'amour de Dieu, aimer Dieu en retour, et aimer les frères et sœurs en retour. Et même au-delà, puisque Jésus dit « aimez vos ennemis ». Donc il y a quelque chose qui dépasse largement le cadre de la lettre de la loi. Qui vous a perturbé, une fois qu'il a posé tout cela, Paul dit, mais qui vous a perturbé pour que vous ne soyez pas obéissants à la vérité? Tiens, on la retrouve là, la vérité. Autrement dit, pour que vous ne soyez pas obéissants à l'œuvre de l'esprit. Parce que c'est ça, ne pas obéir à la vérité, à nouveau, ce n'est pas obéir à une doctrine, ou à une règle d'église, ou à une confession de foi. Ne pas obéir à la vérité, c'est ne pas obéir à l'œuvre de l'esprit qui veut faire la lumière en nous. Il y a une résistance qui se fait à l'égard de l'Esprit de Dieu. Et là, Paul rajoute, un peu de levain suffit à faire lever toute la pâte. Des petites causes ont de grandes conséquences. Et là, Paul a mis en contraste la liberté par rapport à la servitude, la circoncision par rapport à l'incirconcision, la foi par rapport à la loi. Regardons ce qu'il en est aujourd'hui dans certains milieux chrétiens, où le rapport à l'ancienne alliance, je crois en avoir parlé la dernière fois, est ambigu, c'est le moins que l'on puisse dire. Puisque Jésus est l'accomplissement des prophéties de la première alliance, toute la première alliance en fait ne parle que de Jésus, c'est l'ancienne alliance, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ne parle que de Jésus. Et voilà qu'un certain nombre de chrétiens, comme si cette première alliance était encore en marche, ils tirent des promesses pour un autre peuple que le peuple de la nouvelle alliance. Voilà, on peut développer tout ce sujet-là, mais on commence à faire entrer un petit levain qui met la confusion entre les deux alliances. Et ça termine ensuite par des prises de position qui, à tout le moins, sont choquantes. Puisque la parole, on ne voit pas dans l'évangile Jésus cautionner l'injustice, on ne voit pas dans l'évangile Jésus cautionner des guerres, encore moins des guerres saintes. Et pourtant, il y a un certain nombre de chrétiens aujourd'hui, c'est exactement ce qu'ils font. Vous voyez ? À cause d'une confusion entre les deux alliances, parce qu'il y a du levain qui est entré, et tôt ou tard, ça finit par le faire lever la patte, et ça finit même par nous amener sur un terrain d'opposition à la nouvelle alliance. À nouveau, il suffit de voir l'exemple de Jésus dans les évangiles. On a en Jésus le modèle de ce qu'est la vie chrétienne, et ensuite Paul va développer cela avec sa personnalité, mais on a en Jésus le modèle de ce qu'est la vie chrétienne, et comparons ce modèle-là de non-violence, d'amour des ennemis, d'amour pour le prochain, de sacrifice de soi par amour pour le prochain, et comparons cela avec des discours guerriers, littéralement guerriers, qu'entretiennent certaines branches du christianisme aujourd'hui. Alors, je vais être un petit peu plus explicite. Certaines branches du christianisme aujourd'hui poussent littéralement à la guerre, je pense en particulier au Proche-Orient, avec l'idée que, comme Jésus, dans leur schéma de compréhension, comme Jésus doit venir au milieu d'une guerre mondiale, eh bien, poussant à la guerre mondiale, il faut que Jésus revienne. Vous voyez le côté tordu de ce raisonnement ? On va faciliter la guerre, bravo l'esprit chrétien, pour pouvoir accélérer le retour du Messie. Certains chrétiens en sont là aujourd'hui. Vous voyez ? Ça va loin. Hein ? Je ne vais pas être plus explicite que ça, mais il suffit de se tenir un peu au courant de l'actualité pour comprendre ce dont il s'agit. Donc il me reste 5 minutes. Et j'ai juste fait la première page. J'ouvre une parenthèse, c'est intéressant. On peut préparer des messages pendant des heures, trouver des tas de versets. Voilà, j'ai cité ceci, faire allusion à cela. Et on se rend compte, en fait, que... Ben, voilà, les passages... Beaucoup de ce que je viens de vous dire n'est pas écrit. C'est-à-dire, les choses sont données au fur et à mesure. Des fois, il ne faut pas trop s'inquiéter. Donc là, je pourrais partir pendant encore une demi-heure. Paul assure les Galates que celui qui trouble... Donc il y a manifestement quelqu'un qui susurre à l'oreille des Galates. Donc, pour appartenir au peuple de Dieu, il faut être circoncis. Là, vous êtes sûr. Là, vraiment, vous êtes sûr. Vous appartiendrez au peuple de Dieu. Donc il y en a un qui susurrait ça. Et donc ça veut dire qu'il y en a un qui susurrait à l'oreille de ce judaïsant, qui susurrait à l'oreille des Galates. Et donc on sait que celui qui susurre, hein, c'est le serpent. C'est ce dont il est question dans 2 Corinthiens 11. Hein, le serpent qui par sa corruption détourne les yeux de la simplicité de Jésus. De la simplicité de la nouvelle alliance qui ne tient qu'en un seul nom, Jésus. Et là, on rajoute la circoncision. On rajoute le temple. On rajoute la loi. On rajoute, on rajoute, on rajoute. Et à la fin, Jésus devient périphérique. Et non plus central. Et Paul, de coup, continue sur cette idée. Si j'avais prêché la circoncision, pourquoi suis-je persécuté ? Paul ne prêchait plus la circoncision. Et pourtant, vous vous souvenez que quand il est allé à Jérusalem dans le temple avec Tite, Timothée, qu'il a fait circoncire. J'ai un petit doute là. Timothée. Voilà, donc, Paul, voyez bien, c'est pas la circoncision telle qui est le problème. C'est comment je l'interprète et qu'est-ce que je veux en faire. Évidemment, c'était pas pour que Timothée, qui était non né donc de père grec et de mère juive, je crois. Voilà. C'était pas pour que Timothée, d'un seul coup, se mette à obéir à la loi. Hein? Simplement, c'était pour ôter une occasion de chute à l'égard de ceux à Jérusalem envers qui il allait prêcher. Donc, il ne faisait pas de cas, c'est ce qu'il dit avant. Circoncision ou incirconcision, ce n'est pas le problème. Mais si vous le faites, la circoncision, avec cette idée que du coup, ça me garantit le salut et l'appartenance au peuple de Dieu, alors là, ça devient un problème. Donc vous voyez, il y a quand même une certaine souplesse chez Paul. C'est assez étonnant. Donc ce sont les motivations qui comptent derrière les actes. Et donc, il est très sévère donc, que puissent être retranchés ceux qui troublent l'église de Galate. Et ensuite, on conclut, il revient au thème de la liberté. C'est pour la liberté que vous avez été appelés. Ne faites pas de votre liberté un prétexte, une occasion pour la chair. Alors ça, c'est quelque chose, quand on est dans cette marche et dans cette lutte, que l'on connaît bien, c'est qu'effectivement, le Seigneur a franchi, et du coup, on se donne des libertés. On devient un peu plus relax. Et il y a cette tentation, en tout cas moi je la connais bien, cette tentation de se relâcher un petit peu. Après tout, on a fait un bel effort, on a vu un bon fruit, on a vu quelque chose, et puis on se relâche un peu. Voilà. Ça, c'est là encore, c'est la chair qui, d'une autre manière, essaye de survivre. Allez, juste un petit peu. C'est pas grand-chose. C'est comme l'alcoolique qui est passé par sa cure de désintoxication. Et après, il y a la voix qui lui susurre. Juste un petit verre. Juste un petit peu. Voilà. Et puis, on met le doigt, le levain. Wouh ! Ça prend toute la pâte. Ça prend tout le bras. Donc voilà, et ça c'est l'autre difficulté de la vie chrétienne, c'est que lorsqu'on avance dans le Seigneur, il faut garder là où on en est et ne pas se donner de liberté. Et comment fait-on cela? Là encore, qu'est-ce qui donne prétexte à la chair? On se recentre sur soi. Et donc quel est immédiatement le remède que donne Paul? Mais par amour ardent, le mot araméen là renvoie à ce qui est ardent, brûlant, par l'amour, soyez asservis, drôle de terme, asservis les uns aux autres. Et donc, Paul met en opposition la servitude du péché, le joug de la servitude, dont on a parlé au verset 1, et ici, la servitude, la soumission les uns aux autres par amour. Et donc, le remède de cette liberté, pour la conserver, c'est l'amour pour l'autre qui, à nouveau, nous détourne, nous détache de nous-mêmes. Car toute la loi est accomplie par ceci. C'est intéressant en araméen. Et rempli, c'est le verbe remplir qui est employé. Et donc, rempli, on pense à un vase qui est rempli de l'esprit. Vous voyez, le langage est très concret. Une loi accomplie, bon, mais si je dis que la loi est remplie, immédiatement, on a l'image d'un vase que l'on remplit. Et on sait qu'on l'en remplit de l'Esprit de Dieu. Donc la loi, il lui faut l'Esprit, la lettre et l'Esprit, pour qu'elle soit remplie de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en une minute, le mot de conclusion, c'est le verset 15. Car sinon, dit Paul, vous qui voulez être circoncis, vous qui voulez être sous la loi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la loi ne fait qu'exciter la convoitise de notre chair, et Paul leur dit, si vous suivez cette voie-là, vous allez vous mordre les uns les autres, vous allez manger la chair des uns des autres, vous allez aller en accusation, voilà, et vous allez finir par vous consumer, vous dévorer les uns les autres. Dans une espèce de cannibalisme spirituel, vous avez des communautés comme ça qui s'entre-déchirent avec une ambiance catastrophique où les gens sont en train, excusez-moi, de se bouffer les uns les autres. Et ça a commencé par un peu de levain, c'est-à-dire on élimine le premier amour, exactement le cas de l'église d'Éphèse. Éphèse a perdu son premier amour, mais ensuite il y a eu les loups, comme il est dit dans Acte 19, il y a les loups qui sont venus et qui ont déchiré l'assemblée. Juste perdu le premier amour. Donc la centralité et la simplicité à l'égard de Jésus. Ça tient à très 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 peu de choses. Est-ce que Jésus garde la première place dans notre vie? Ou alors, est-ce qu'on rajoute des petites choses qui apparemment améliorent notre vie chrétienne? Par exemple ici la circoncision, c'est garanti de plus. Mais ça termine par déchirer les uns les autres, mordre les uns les autres, consumer les uns les autres, accuser les uns les autres, s'entre-déchirer les uns les autres. Vous voyez que ça devient un langage qui est très animal. C'est vraiment bestial, l'Église qui s'entre-déchire. Voilà pour aujourd'hui. Que le Seigneur accompagne cette parole.